Votre expérience passée, est-ce que vous avez pu capitaliser là-dessus?
Quand on a été, que ce soit officier de renseignement, mais on est avant tout un soldat, dans les métiers que j'ai exercés, décider dans l'incertitude, agir vite dans l'action, oui. Tout ça, avoir l'habitude d'être formé à ça, permet finalement de pouvoir naviguer correctement dans cette guerre économique.
Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Et merci de nous soutenir sur Tipeee pour maintenir cette ligne éditoriale indépendante. Vous pouvez aussi devenir membre de notre chaîne pour accéder à du contenu exclusif sans avoir à supporter les coupures publicitaires de YouTube. Alain Juillet, bonjour.
Bonjour Claude.
Alors aujourd'hui, une émission toute particulière. D'abord, c'est un sujet de prédilection pour nous, qui est la guerre économique, oui. L'intelligence économique, qui est le deuxième pendant de nos émissions au-delà de la géopolitique. Oui. On accueille aujourd'hui Mme Maïline Camus, oui. Qui a écrit un livre sur l'intelligence économique, le renseignement économique, qui s'appelle « Dans l'ombre de la décision oui. ». Et on va avoir certainement une émission très importante et des échanges très intéressants oui. avec Mme Camus. Je vous laisse développer.
On a pensé que vous pouviez apporter une dimension sur un thème que nous évoquons souvent. En définitive, vous êtes, indirectement, mais directement aussi, dans ce processus de réindustrialisation que nous devons faire en France, parce que, comme nos auditeurs le savent bien, le troisième pays exportateur du monde, l'Italie, qui a essentiellement des toutes petites entreprises, c'est vraiment des PME, ils sont à plus de 20% d'industrialisation en Italie. Après, on a les Allemands, ils sont à 18% d'industrialisation, et eux, ils travaillent avec des entreprises moyennes. Et puis nous, en France, on a fait un choix, on a dit, nous, on va développer des entreprises, des grandes entreprises, le fameux 440. Résultat, on est à 10% et on est catastrophique au niveau de la balance du commerce extérieur. Donc, ça pose un vrai problème. Alors, comment faire pour développer le tissu de PME et comment faire surtout pour faire que nos PME soient compétitives et soient capables de se battre? Ben, il faut qu'elles apprennent. Et alors, dans le cadre de tout ce qu'elles doivent savoir, ben, il faut qu'elles soient informées. Il faut qu'elles apprennent à utiliser toutes les informations disponibles pour pouvoir travailler efficacement. Et c'est là où je suis tombé sur ce livre. On en a parlé ensemble, qui nous a paru très intéressant. Et c'est pour ça que je me suis permis d'inviter Maïline Camus, qui a une carrière très particulière, puisqu'elle sort du monde du renseignement. Elle était officier à la DGSE, ce n'est pas un secret de le dire. Mais on ne parlera pas de ça. Avant, c'est sacré. Moi, je suis bien placé pour le savoir. On n'en parle pas. Mais par contre, on peut parler après de tout ce que vous faites, bien entendu. Et je pense que justement, ce mélange d'expérience sur un certain nombre de choses dont on parlera, et puis et la réalité du terrain, fait que ça donne un livre que je conseille à tout le monde de lire, et sur lequel on va pouvoir dialoguer tous les deux. Alors, Maïline, merci d'abord d'être parmi nous. Et la première question, c'est pourquoi, quand on se lance, on crée un cabinet et on écrit un livre sur un domaine quand même pointu et avec plein d'exemples. Alors, comment on fait? Comment ça se passe?
En tout cas, déjà, merci Alain, merci Claude de me recevoir. Je suis vraiment ravie d'être là sur cette chaîne. La genèse de cet ouvrage, c'est vraiment le sentiment d'un besoin de la part des dirigeants. Quand j'ai débuté dans l'intelligence économique, je me suis rendu compte que c'était assez flou, assez vague, et que quand je parlais avec les dirigeants, le mot intelligence économique, la matière de l'intelligence économique, ça résonnait très peu en eux. Mmh. C'était assez flou, c'était assez obscur, et parfois même on faisait l'amalgame avec la barbouzerie, l'espionnage industriel, ouais. Donc la frontière était quand même assez mal définie dans la tête des dirigeants. Et à travers cet ouvrage, ce que j'ai voulu faire, c'est partager avec eux ce qui est réellement, concrètement sur le terrain, ce que j'appelle moi le renseignement économique. Et comment ça peut être un outil, une arme pour faire face à cette guerre économique qu'ils traversent malgré eux. Et le dirigeant d'entreprise, lui, il a besoin que ce soit concret pour pouvoir se plonger, pour pouvoir s'identifier. Et c'est ce que je raconte dans cet ouvrage, 23 cas réels de dirigeants qui ont traversé des situations économiques et stratégiques dans leurs organisations pour qu'ils se retrouvent dans ces histoires, que ça fasse écho en eux et qu'ils puissent se dire « Ah, j'ai déjà été dans cette situation » ou « Ah, je crois que je suis dans cette situation. » Comment le renseignement peut venir m'aider à prendre de la hauteur de vue et à décider.
Oui, Claude, ce que vous disiez tout à l'heure avant qu'on commence cette émission, c'est qu'en lisant le livre, à certains moments, j'ai mis « c'est mon cas ».
Oui, sur les.
Hein,
sur,
c'est ça.
J'ai,
hein.
J'ai pas dû avoir beaucoup de chance dans mes affaires parce que sur les 20 cas que vous traitez, je les ai tous connus.
C'est que vous êtes un dirigeant aguerri.
D'une façon. Non, mais c'est vrai. C'est... Et ce livre, en fait, c'est une grille de lecture.
Oui.
Et effectivement, ça met des mots sur des situations qu'on a vécues. On était un peu dans le brouillard. Et là, on se rend compte de la réalité. Vous en parlez dans votre livre, la notion de différence de culture si on va à l'international. En plus, Alain Juillet et moi-même, on a eu une grande carrière à l'international, moi plus modeste. Mais c'est très important d'avoir du renseignement économique, dans le bon sens du terme, pour pénétrer un marché et signer des affaires, sinon c'est
bien
pas
sûr.
Possible. Et votre livre l'explique très précisément.
Alors justement, quand vous avez commencé, là, quand vous avez créé votre cabinet en définitive, comment ça s'est passé? Parce que vous arriviez d'un monde quand même très différent, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment vous avez réussi à accrocher? Qui étaient vos premiers clients? Comment ça s'est passé?
J'ai décidé de faire ce qu'on n'attendait pas de moi, c'est-à-dire que j'ai décidé de communiquer. J'ai décidé de prendre la parole sur ces sujets-là. Parce que, avant de lancer mon entreprise, j'ai fait du renseignement d'affaires. Finalement, je me suis renseignée sur ce qu'était la matière, quel était l'état du marché. Est-ce qu'il y avait des clients potentiels sur ce type de business? Et je me suis rendu compte que c'était flou, c'était taiseux, etc. Et je me suis dit, mais moi, j'ai eu besoin qu'on communique avec moi pour que je comprenne. Donc, je vais communiquer sur ce que je sais faire. Je vais communiquer sur ce qui existe parce que c'est un outil au service des dirigeants, d'aide à la décision. Donc, c'est bien pour eux.
Oui.
Et donc, le garder dans le secret des dieux, le renseignement économique, c'est extrêmement dommage. Et donc, j'ai voulu lui donner, en fait, mettre en lumière ce métier de l'ombre. Et finalement, quand on parle et qu'on prend la parole et qu'on s'exprime sur ce qui nous passionne, parce que moi, ça me passionne, ça me fait vibrer.
Ça se sent.
Eh bien, les gens se sentent concernés. Et ce qui s'est passé, et je remercie ces premiers clients qui m'ont fait confiance, parce qu'on a tous un premier client, c'est cette confiance qu'ils ont eue en se disant « Mais Madame Camus, je partage votre vision. Quand vous parlez du renseignement économique, ça résonne en moi, donc je pense que vous pouvez peut-être m'aider. » Et donc, l'un dans l'autre, on tisse une relation et je viens éclairer leurs doutes. Et puis, leur proposer, si c'est nécessaire, parce que parfois, j'ai aussi dit que ce n'était pas nécessaire d'avoir un accompagnement, parce qu'ils pouvaient le faire dans leur propre entreprise et reviennent vers moi si nécessaire. Mais en fait, avec cette stratégie, ou j'ai envie de dire cette honnêteté intellectuelle, c'est comme ça que j'ai réussi et je les remercie d'avoir mes premiers dossiers.
Ce livre fait écho un peu aussi le travail que l'on fait dans nos émissions. C'est quelque part, dans le bon sens du terme, de la vulgarisation.
Oui.
Et c'est très important, c'est-à-dire que nous, c'est la géopolitique et aussi l'intelligence économique, mais c'est permettre à des gens de comprendre simplement des dossiers ou des sujets où ils se disent « Oh là là, c'est pas pour moi, je vais pas comprendre. » Et bien, votre livre, c'est pareil, c'est de la vulgarisation, dans le bon sens du terme, où un chef d'entreprise se dit « Mais j'ai compris et j'ai un problème, c'est accessible pour moi. »
Oui, et ça a été un exercice qui n'est pas facile, parce que quand on parle de vulgarisation, moi, je voulais simplifier, rendre accessible sans dégrader la matière, qui est une matière quand même noble, qui nécessite du travail et des savoir-faire particuliers, vous le savez mieux que moi. Et je voulais quand même mettre ça en lumière sans dégrader, mais il fallait que ça fasse écho à un dirigeant qui est toujours dans l'action. Et surtout, j'avais une idée en tête. À l'armée, on dit toujours que le chef peut avoir de la solitude. Sortir le chef de sa solitude, cet ouvrage, l'objectif, c'est d'aller chercher ce dirigeant qui prend des décisions stratégiques. Et avec ses cas pratiques, il se rend compte que ses pairs, finalement, traversent la même chose, vous l'avez dit, Claude, dans son existence et dans la gestion de son organisation. et de se dire bah, finalement je ne suis pas seul et je ne suis pas le seul et donc je n'ai pas à avoir honte de traverser ce genre de situation. C'est pas que je suis un mauvais dirigeant, ce n'est pas que j'ai pris des mauvaises décisions, c'est que finalement bah, ça arrive dans la vie d'une organisation et d'un dirigeant de se retrouver dans des situations difficiles comme ces 23 cas et quand il les lit, il peut se dire je ne suis pas seul et finalement il existe des solutions, c'est écrit dans cet ouvrage.
Alors, est-ce que dans le cadre de ces relations que vous créez avec ces patrons d'entreprise, ces petites entreprises, hein, est-ce que dans le fond, au-delà de l'intelligence économique, vous n'avez pas une espèce de rôle de coach aussi sur certains points?
Ah, la frontière, elle peut être...
Ah oui, ouais, parce que quand vous écoutant, puis en plus en lisant le livre et puis en y réfléchissant, on dit quand même... Hein, on influence, il ne connaît pas très bien, il est un peu perdu,
il nous fait
pose
confiance.
Plein de questions et on arrive, on va lui donner confiance, on va faire des choses.
Mais finalement, je ne sais pas si le mot coach est adapté, mais un dirigeant de PME, de petite entreprise, de TI, lui, il a les mains dans le cambouis. Il doit gérer énormément de choses et on lui dit de prendre de la hauteur de vue pour faire face à cette guerre économique et prendre des décisions stratégiques. Il est au four et au moulin. Et qui plus est, il ne peut pas, lui, et financièrement, et même en termes de bande passante, avoir 15 000 conseils. Donc, il va faire appel à un conseil qui est assez hybride, adaptable, et qui résonne en lui. Et finalement, c'est vrai ce que vous dites, quand il vient au cabinet, il vient avec une problématique, et il va en découler soit une stratégie juridique, donc on va mettre à disposition des conseils juridiques pour cela, ou des experts financiers pour analyser. Donc effectivement, quand il pousse la porte du cabinet, il vient avec une problématique, mais les problématiques, rien ne rentre dans des cases, et vous le savez mieux que moi, je déteste rentrer dans une case, et donc mes clients et les dirigeants ne rentrent pas dans des cases. Leur problématique, elle est singulière. Elle est hybride et donc on se doit maintenant, moi je pense que les conseils aujourd'hui, en règle générale, se doivent de devoir naviguer entre les eaux pour pouvoir, oui, on a notre expertise à nous, la mienne étant le renseignement économique, mais on doit avoir cette intelligence de situation, soit de rediriger, d'accompagner, puis tout simplement d'écouter vraiment le dirigeant pour comprendre ce qu'il traverse et l'aiguiller comme il se doit.
On va raconter 23 cas. Sans vous demander, mais ce sont des cas inspirés et réels ou romancés ou une invention parce que dans votre brillante intelligence, hein, ou pour justement donner des explications ou des trucs.
Non, il
Comment
s'agit.
Vous avez fait ça, ouais.
Il s'agit réellement de 23 cas que j'ai vécu auprès des dirigeants. Évidemment, c'est anonymisé.
Bah, bien sûr.
Voilà, parce que
on
fait preuve de discrétion et puis aucun dirigeant n'a envie de voir son histoire
dévoilée.
Mais elle est la plus proche possible de cette réalité qu'on a traversée main dans la main, parfois en 2 semaines, parfois en 6 mois et parfois en 1 an. Parce que c'est cette réalité, c'est ce pouls du terrain, qui va permettre aux dirigeants de se retrouver. Si c'est trop romancé, bah, ça ressemble à un livre d'espionnage, donc on va transporter le dirigeant. Et si c'est réel, on le laisse les pieds sur terre. C'est un manuel de combat, finalement. Donc il doit être opérationnel.
Dans votre livre, vous utilisez souvent le terme veille. Alors, il se trouve que moi, quand j'ai commencé, donc jeune salarié, on m'a confié tout de suite des missions de veille économique. Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'OSINT, il n'y avait pas tout ça. Et en fait, le renseignement économique, ça existe depuis très longtemps.
Oui.
Ça s'appelait différemment. On a maintenant des outils extrêmement sophistiqués. Mais il était important de connaître ses concurrents, de connaître les produits concurrents. Quand on allait à l'international, de comprendre ce qui se passait avant d'y aller. Moi, je peux même vous donner une anecdote. C'est que je me suis occupé de la communication en Afrique, en Russie et en Chine d'un constructeur de voitures automobiles françaises. Et à l'époque, quand on allait en Afrique, on prenait des taxis africains dans les pays et on leur demandait l'état du marché du pays où on était. Et qu'est-ce qu'ils considéraient, comment ils considéraient la marque de voiture pour laquelle on travaillait. Et à force de prendre des taxis, utiliser ce genre de voiture, on savait l'état d'esprit du marché, les tendances. Le concurrent Toyota qui arrivait du Japon à l'époque, qui était beaucoup moins cher, il mettait la clim, il mettait les voitures, les roues plus... Donc la veille, c'est toujours très important, même pour faire de la communication et toucher la cible.
Extrêmement important, et je vous rejoins totalement, Claude. Le renseignement économique ne date pas d'hier, et il ne date certainement pas de la parution de mon ouvrage, qu'on se le dise. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est que les dirigeants, alors, ils se sentent de plus en plus concernés, mais pendant longtemps, ils pensaient que le renseignement économique était une matière réservée aux plus grands, ou à ceux qui vont en Chine, etc. Alors que non, la réalité, c'est que ça concerne tout le monde, tout dirigeant qui a une volonté de croissance et qui a des responsabilités économiques et qui est décideur. Et la veille, c'est le socle, c'est la base. C'est peut-être pour ça qu'on vous a donné cette mission dès le début, parce que c'est la base de se renseigner où on va, comment faire. Avoir cette culture en fait, de veiller, c'est instaurer une culture du renseignement, une culture du risque, une culture des enjeux dans son entreprise. Et instaurer une culture d'entreprise, c'est de la responsabilité du dirigeant. Voilà. Et c'est une responsabilité qui pèse sur ses épaules. C'est pour ça que cet ouvrage s'adresse à lui. Parce que le dirigeant, s'il n'instaure pas lui-même cette culture du renseignement, de s'intéresser, du risque, d'anticiper, on ne peut pas demander à ses collaborateurs de le faire.
Bien sûr.
La guerre économique est peut-être plus violente aujourd'hui par rapport à ce qu'on a connu.
Je ne sais pas.
Les moyens plus sont rapides. Il faut réagir.
Les moyens sont différents. Voilà, les moyens sont différents, mais elle était violente aussi avant. Elle ne se faisait pas de cadeaux quand même. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. En définitive, donc selon, alors avec votre expérience acquise, hein, quel est le domaine dans lequel ils ont le plus besoin en définitive de ce renseignement, de cette veille? Est-ce que c'est pour se défendre? Est-ce que c'est pour comprendre? Est-ce que c'est pour attaquer? Ou est-ce que c'est un équilibre? J'en sais rien. Mais justement, comment vous les voyez? Comment ils sont? Qu'est-ce qui les préoccupe en priorité?
Eh bien, je vais vous répondre et vous allez voir que ça reflète vraiment bien la réalité du terrain. Les dirigeants de PME, aujourd'hui, ont besoin de renseignements économiques pour se défendre, c'est-à-dire quand ils sont dos au mur et qu'ils sont dans un pré-contentieux ou déjà dans un contentieux. En règle générale, la majorité des dirigeants qui vont venir me voir, c'est parce qu'ils sont déjà dos au mur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait de renseignements en avance de phase, qu'ils se sont retrouvés à contractualiser avec un partenaire finalement malveillant ou qu'ils n'ont pas anticipé certains enjeux. Et c'est à ce moment-là où ils vont faire du renseignement. Donc j'ai envie de dire qu'on est plutôt dans une ambiance de réaction plutôt que d'anticipation. Et nous, notre volonté, c'est de basculer et d'avoir une France qui anticipe plutôt qu'il réagisse. Mais finalement, ce que je vous dis là sur l'état des gens avec qui je travaille, ça signifie que c'est finalement peut-être bien l'état de ce qu'il y a en France, des dirigeants français, c'est-à-dire qu'ils sont en réaction et non pas en anticipation, parce que ce n'est pas dans notre culture d'anticiper. Et on est justement là pour essayer de faire basculer les choses.
Pour l'anticipation, parce que moi je travaille beaucoup sur la communication de crise pour un certain nombre d'entreprises. Et ils m'appellent toujours quand c'est la crise. Alors que ça se prépare de communiquer sur une crise possible.
En temps de paix, on prépare la guerre, non?
Voilà, faire appel à des gens comme vous, c'est primordial, mais il faut l'anticiper, il faut le penser, il faut se dire, tiens, je suis désolé, on peut en parler aussi, mais il faut que je vote une ligne de budget.
C'est très vrai.
Mais est-ce que ça va m'être utile ou pas? Bon, voilà.
En fait, finalement, c'est facile de dire que c'est un peu faire un raccourci de dire que le dirigeant n'anticipe pas, parce qu'en fait, cette culture du renseignement, oui, elle doit être insufflée par le bas, par le dirigeant, mais si on garde ma théorie, elle doit être insufflée de l'État vers le dirigeant, du coup. Et si on regarde nos concurrents et les puissances étrangères, comme par exemple les États-Unis, ils ont une force de frappe en termes de renseignement économique qui est très importante, parce qu'ils ont eu des moyens étatiques à leur service, que ce soit des moyens financiers, des moyens de lobbying, dans les écoles. Ils forment leurs dirigeants de demain. Déjà, ils ont une culture du renseignement. Ce qui n'est pas le cas, en fait, de nos futurs dirigeants français. Cette culture du renseignement, elle est encore très timide. Donc finalement, aussi, il faut que cette impulsion ne vienne pas que de nous, les privés, puisque nous sommes des acteurs privés. Et il faut qu'elle vienne aussi de l'acteur étatique, de l'action publique, de venir soutenir, éclairer un peu le dirigeant pour pouvoir avoir un effet de masse sur cette France qui doit anticiper. Parce que, pour un petit peu répondre à votre question sur est-ce que la guerre économique, elle est plus difficile aujourd'hui ou hier, moi, je ne la connais pas, celle d'hier, mais ce que je peux vous dire, c'est que celle d'aujourd'hui, elle est terrible parce qu'elle est hybride et elle est insaisissable avec nos nouvelles technologies. Donc le fait qu'elle soit complexe, hybride, insaisissable, et hier encore j'en parlais, c'est pas le gros monstre vert qui va rentrer dans la maison, qu'il est bien vu, vu l'ennemi, on tire dessus, c'est ça rentre par les par la cyber, ça peut rentrer par le physique, ça peut être insidieux, ça peut durer des années pour un objectif à long terme. Donc finalement, c'est impalpable, c'est insaisissable, c'est complexe, et le dirigeant doit faire face à quelque chose qu'il ne matérialise pas, sauf quand il se retrouve dos au mur avec un contentieux où là, à la fin, il y a la réputation, le chiffre, l'énergie, et il se rend compte que là, il y a un coût réel. Et ça, en fait, nous, on prend la parole, on écrit des ouvrages, on discute, on a un média, mais il faut quelque chose de plus fort que nous, ce qui s'appelle l'État, pour aider ces dirigeants à comprendre mieux que ce qu'ils peuvent faire avec leurs propres moyens.
Alors, vous avez raison, en parlant de guerre hybride, on a fait une émission sur le nucléaire français.
Oui.
Et les dirigeants de EDF à l'époque ou de Areva à l'époque se savaient attaqués, mais ils ne savaient pas comment ni pourquoi. Et toute l'idée était de détruire le nucléaire français, de fermer des centrales nucléaires. Et finalement, c'est les élèves de l'EGE, l'École de guerre économique,
qui ont sorti l'histoire.
Ont sorti un dossier où l'Allemagne, le gouvernement allemand, finançait depuis des années des ONG anti-nucléaires françaises pour, par capillarité, monter au plus haut niveau de l'État et faire en sorte qu'on ferme des centrales nucléaires, ce qui allait tuer l'industrie française. Donc vous avez raison, aujourd'hui, la guerre économique est hybride et on ne sait pas d'où ça vient, on ne savait pas d'où ça venait.
Vous êtes, à ma connaissance, vous êtes un des très, très rares, si ce n'est pas le cabinet qui travaille avec les petites PME, et vous êtes au MEDEF, hein, si je ne me trompe pas. Donc, comment le MEDEF réagit dans ces cas ? Parce que eux, au départ, c'était les toutes petites entreprises, c'est pas vraiment leur truc. Ils sont plutôt des entreprises moyennes, non ?
Je sais non.
pas. Non, non. Alors pas je du suis, tout. Je suis. Peut-être qu'ils ont évolué ou que c'est moi qui suis pas au courant.
Je suis membre du Comex 40 du ouais. MEDEF, qui réunit 40 dirigeants français de moins de 45 ans.
Oui, c'est ça.
Donc forcément.
L'avenir. Vous êtes l'avenir. Voilà.
Ah, bien sûr. on grandit avec les expériences de nos pères. Et finalement, ça montre que si on s'intéresse à ces jeunes dirigeants, on s'intéresse aussi aux petites entreprises.
Oui. Hein,
et c'est aussi ce qu'on représente finalement en étant membre oui. du MEDEF. Je veux dire, le MEDEF s'intéresse à toutes les entreprises françaises. Et d'ailleurs, le renseignement économique est un sujet qui intéresse. Qui
oui.
intéresse et qui commence finalement, effectivement, à se dire il faut aussi. Le MEDEF est un bon moyen aussi de faire écho chez les dirigeants. C'est un bon moyen de communiquer sur ces sujets pour les sensibiliser,
oui,
les transporter et puis leur donner envie de s'y intéresser. Parce qu'on est bien d'accord que cette matière, la sécurité économique, nous, ça nous passionne, mais c'est quand même une matière qui est aride,
oui.
Qui ne donne pas envie à tout le monde et encore moins aux collaborateurs. Donc il y a le fond. Il y a la forme, il faut donner envie aux dirigeants de s'y intéresser et aux collaborateurs d'être embarqués dans l'aventure.
Et le MEDEF est très actif dans cette pour éduquer, former les dirigeants, les chefs d'entreprise, parce que avant il y avait quand même l'ancien président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Brézieux, était sensibilisé à cet univers.
Il a fait un rapport.
Il a fait un
rapport.
Alors, est-ce qu'à votre connaissance, à son époque, déjà, il y avait des choses mises en place ou pas particulièrement ?
Sur le renseignement économique, pas à ma connaissance. Et d'ailleurs, c'est le message que j'ai envoyé à M. Patrick Martin en lui envoyant l'ouvrage, de lui dire que, regardez l'état des lieux que j'ai pu mener grâce à ce... À cet écrit. Voyons voir si on peut faire quelque chose. Moi, je sais qu'ils organisent des conférences pour les adhérents et ça pourrait être intéressant lors d'une conférence d'aborder cette thématique du renseignement économique justement pour débuter par sans parler de formation, mais déjà prenons la sensibilisation.
Oui,
en fait, on est encore en France, on est encore sur un système ouais. d'éducation du dirigeant sur cette matière alors que d'autres sont déjà en train de perfectionner leurs armes.
Absolument.
Hein, donc on a vraiment un déséquilibre qui est majeur. Donc il faut commencer par le début.
Je me rappelle le MEDEF, il y a ton temps, quand je m'occupais d'intelligence économique plus directement, et où le MEDEF, on avait énormément de mal. Je me souviens d'un président du MEDEF, que je ne le citerai pas, vous allez comprendre pourquoi, et il m'a reçu très aimable et charmant. Et en plus, il était très urbain et très bien élevé. Et alors je lui ai expliqué certaines choses, il m'a dit... Ah, c'est intéressant ce que vous faites. Bon, ça n'a aucun intérêt pour nous, mais c'est très intéressant. Et là, je m'étais rendu compte que bon, on avait un petit problème de communication. Mais c'est vrai que les choses ont évolué peu à peu. Hein.
Il faut se battre pour les
mais il faudrait une mobilisation, parce qu'on revient à ce que je disais moi, au départ sur les, En France aujourd'hui, quand on regarde le problème de la désindustrialisation, qui est un problème essentiel hein, dans notre pays, hein, parce que ça plombe la balance des paiements, ça plombe tout, hein, et l'emploi, enfin tout. Quand on regarde, on s'aperçoit que malheureusement, c'est vrai, l'État, et là vous avez tout à fait raison de le dire, l'État ne se mobilise pas suffisamment pour aider les entreprises à leur fournir les informations utiles pour qu'elles puissent non seulement se défendre, mais attaquer. Hein, parce que c'est clair. Hein. Alors que les autres pays, ils vont de bon cœur. Les Italiens, c'est impressionnant. Les Allemands, avec dans les landers aident leurs entreprises de manière importante, très importante même. Et les Américains, vous l'avez dit, hein, ils ont tous à disposition des informations.
Bien sûr.
On ne parle pas des Chinois, là c'est encore autre chose, encore parce autre que là chose, c'est un rouleau compresseur.
Mais c'est ce qui nous attend, c'est la réalité du terrain. Et aujourd'hui, le dirigeant, il doit faire face, quoi qu'il advienne. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que les PME françaises, les entreprises françaises, et le dirigeant, il est créateur de valeur.
Oui.
Il est créateur de valeur. Il crée de l'emploi, il crée de la valeur financière, il crée de la valeur de produits, mais il crée aussi le rayonnement de la France. Il ne faut pas l'oublier. Claude, vous avez été à l'international, mais vous avez représenté le bleu, blanc, rouge à l'international. Et nos dirigeants français, ce qu'ils font quand ils vont pénétrer des marchés à l'international, ils portent fièrement nos couleurs. Mmh. Ils nous représentent. Donc c'est le rayonnement de notre nation. Et on y tient quand même. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de prendre le sujet très sérieusement, parce que cette valeur, c'est comme tout dans la vie. Hein. Elle est précieuse, donc il faut en prendre soin. Mmh. Et si on ne considère pas que ce qui est créé par le dirigeant, c'est une vraie valeur importante pour la nation, et qu'on ne s'en donne pas les moyens de le protéger, de l'aider à faire face, finalement, un jour, et c'est ce qui peut se passer en ce moment, on va perdre cette valeur.
D'autant que l'image de la France à l'international est excellente.
Bien sûr.
Mais, alors, je connais plus l'Asie, mais... Les Japonais sont amoureux de la France et des produits français, les Chinois aussi. Mmh. Et pour vous dire, j'ai créé une chaîne sur l'art de vivre à la française en langue chinoise, développée sur tous les réseaux sociaux chinois. Il me fallait une autorisation pour faire ça, c'est interdit. J'ai présenté ça à un ministère avec un certain nombre de fonctionnaires qui ont regardé ce que je filmais, le Champs-Élysées, le Château de Versailles. Et j'ai dit, est-ce que vous allez me censurer ? Et les gens m'ont dit, mais non, on va vous donner une licence de diffusion. Donc la France nous aide, l'image de la France nous aide aussi à exporter. Mmh. Donc il faut aussi lui rendre l'appareil.
Nous aussi, on est amoureux de la France.
Bah, bien sûr.
Et de nos produits.
Mais oui,
on les comprend. On les comprend.
Mais c'est vrai qu'il faut accompagner les chefs d'entreprise à l'international et leur expliquer que ce n'est pas si compliqué que ça, mais il faut une veille ou une compréhension du pays, du marché, de la culture, du pays dans lequel ils pourraient être amenés à aller.
Il y a des belles organisations privées qui le font, hein, mais elles restent privées. Oui. Et le dirigeant doit être à l'initiative d'une adhésion, doit être à l'initiative de déclencher quelque chose. Oui. Ce qui serait sympa, c'est qu'il y ait quelque chose qui vienne aussi de l'État pour englober, encapsuler, soutenir cette démarche et pousser le dirigeant à aller de l'avant. Sur ces thématiques.
Mais c'est vrai aussi qu'on est au pays d'Astérix. Nous, on est dans un pays dans lequel chacun va dans son coin et va dans son sens. Parce que quand vous voyez, je me souviens, c'est Christine Lagarde, quand elle était ministre du Commerce extérieur, qui disait la grande différence avec les Allemands, par exemple, c'est que les Allemands chassent en meute. Alors pendant la guerre, ils étaient les meutes de sous-marins, mais bon. Mais dans les entreprises, il y a la grosse entreprise, d'où les petits qui sont derrière qui suivent. Hein, ou un groupe de petites entreprises. Donc, ils amènent un service presque complet à plusieurs. Évidemment, ça marche. Et nous, on est chacun pour soi, on est trop isolés. Ça, c'est un des problèmes que je crois pour le futur, pour les PME, c'est comment arriver quand même. Alors, vous le disiez, il faut l'État. Mais il faudrait que l'État, oui. Avant, il y avait les chambres de commerce qui ont fait. Essayé à un moment, les chambres de commerce avaient, à l'époque du président Bernardin qui vient de mourir, là. Le Bernardin avait essayé de fédérer les petites entreprises dans des projets communs pour justement développer. C'était très astucieux parce que c'est comme ça qu'on peut être fort. Hein.
Mais c'est ce que fait le MEDEF, hein, c'est ce qui, ce qui développe sur les territoires, et notamment avec le COMEX 40, où nous, on est aussi garant de par territoire, par département, d'attirer ces dirigeants, cette aussi jeunesse de dirigeants, et de leur dire, bah, venez, on va réfléchir ensemble à des sujets, à des thématiques, pour les faire remonter. Et donc, je pense que le MEDEF, pour le coup, s'inscrit dans ce que vous êtes en train de dire, de vouloir chasser en meute, ou du moins réunir les troupes.
Et alors justement, vous, quand vous êtes avec vos clients, vous arrivez à leur faire comprendre qu'ils ont tout intérêt, même à utiliser des informations communes et autres, parce que moi, je me souviens, c'était le début de l'intelligence économique, il y a très longtemps, hein, quand on disait au patron d'entreprise, bon, alors écoutez, on va faire une veille qu'on fera pour tout le groupe, et il dit, mais jamais, je ne veux pas que mes concurrents puissent avoir la moindre information que j'avais. Alors, il dit, mais attendez, si vous êtes 10 à la partager et que personne d'autre ne l'a, ben, vous les 10, vous êtes gagnant, donc vous serez gagnant. Mais il ne voulait pas. Hein. Il y a une mentalité française aussi. Alors je pense que vous devez le voir, vous, avec vos entreprises, parce que c'est la France, hein. C'est partie de notre problème. Hein.
Ça fait partie de ce qu'on est.
Hein. Ben oui, oui. Avec le bon et le mauvais côté.
On doit bien avancer avec nos forces et nos faiblesses. On peut en avoir. Il faut juste en avoir conscience. Je crois que c'est ça qui est important.
C'est ça, oui. On a parlé de beaucoup de choses, hein, déjà, durant cette interview. Il y a une chose, moi, c'est... Est-ce que votre expérience passée... Je ne veux pas rentrer dans... on est bien d'accord, on ne parle pas du passé. Hein, mais... Est-ce que votre expérience passée, est-ce que vous avez pu capitaliser là-dessus, par exemple, sur le comportement, les idées,
les méthodes,
les valeurs.
Les valeurs, déjà. La première chose, les valeurs. Hein, quand on a été, que ce soit officier de renseignement, mais on est avant tout un soldat, donc les valeurs de la France, patriotique, la loyauté, la droiture, la rigueur. Et puis, dans les métiers que j'ai exercés, décider dans l'incertitude, agir vite dans l'action, maîtriser, être capable de prendre des risques alors que les enjeux sont forts, nationaux, être capable de travailler en terrain hostile, hein, qu'il soit humain, qu'il soit technique. Voilà. Et bien, tout ça, avoir l'habitude d'être formé à ça, permet finalement de pouvoir naviguer correctement dans cette guerre économique qui est un autre théâtre d'opération, évidemment, différent. Mais ça reste un théâtre d'opération. Et donc, ça permet...
Et les valeurs sont les mêmes, les valeurs partagées.
Et les valeurs sont les mêmes parce que je ne travaille pas seule. J'ai aujourd'hui plus de 80 experts dans le monde entier qui ont la capacité d'apporter une expertise, de capter du renseignement, etc. Les valeurs, elles sont importantes avec les clients, mais elles sont aussi importantes au sein de la structure, avec les collaborateurs avec lesquels on travaille, pour fédérer, pour donner envie aussi aux gens d'aller au combat avec vous parce qu'on ne sert pas des intérêts nationaux, on sert des intérêts privés.
Bien sûr.
Et donc, les valeurs et les motivations sont bien différentes que quand on servait sous le drapeau. Si on a un tronc solide de valeurs, ça permet, j'ai envie de dire, de remettre l'église au milieu du village. Et c'est très important quand on fait des missions comme celle-ci.
Vos collaborateurs ou collaboratrices, vous les trouvez facilement? Comment ça se passe actuellement sur le marché? C'est facile de trouver des gens qui travaillent là-dedans ou alors on les forme soi-même?
Il y a beaucoup de personnes qui travaillent.
Ouais.
Mais si on cherche un peu le mouton à cinq pattes, qui est en phase et avec les valeurs et la méthodo, l'expérience, la façon de travailler, l'éthique. Hein, parce que alors moi, j'ai une liste de courses comme ça, de critères pour pouvoir travailler avec moi. Donc finalement, le tamis est tellement fin que voilà, c'est difficile.
C'est pas facile. Mais c'est...
Non, c'est un vrai... non, mais c'est un vrai travail, par contre, de dirigeant, d'aller chercher le talent. Et beaucoup de dirigeants se reconnaîtront dans ces propos. Aller chercher le talent qui correspond aux besoins de l'entreprise. Moi aussi, je traverse ce genre de difficultés, d'aller chercher ce talent dont j'ai besoin pour mettre au service du client et du dirigeant qui me fait confiance. J'ai besoin de certains talents qui correspondent en tout point.
Bien sûr.
Et je ne fais pas de concessions. Donc, forcément, c'est difficile de trouver des expertises, mais heureusement, il y en a. Et je passe un petit message pour eux qui m'écoutent. Je les remercie de faire partie de l'aventure qui est incroyable.
On arrive un peu à la fin de cette émission. Et je voulais vous dire une chose, c'est qu'en lisant votre livre, en définitive, moi, je trouvais que c'était un livre d'espérance. Parce que si j'étais patron de petite PME, comme on l'évoquait au début, on lit ça, on dit, mais dans le fond, ben, tout ce qui m'arrive, ben, y a d'autres qui l'ont connu. Et on peut le résoudre. Et surtout ça arrive et on peut le résoudre. Et ça, je trouve ça formidable parce que ça donne l'espoir. Hein. Quand on sait qu'on peut s'en sortir, ben, on trouve toujours des solutions. Alors que quand on est dans le noir total, c'est plus difficile. On y arrive, mais c'est plus difficile.
Merci pour ces mots.
C'est vrai. Je trouvais très, très bien.
Alors, vous avez effectivement cette expérience dans le renseignement à l'armée, mais vous avez eu avant une formation de juriste. Et je crois que cette dimension-là est très importante aussi. On m'a toujours dit que le juridique, c'est la base de tout. Et je crois que ça fait partie... Vous avez une double casquette de formation, et je crois que ces deux univers se retrouvent bien dans ce que vous faites actuellement.
Effectivement, je suis formée en droit des affaires. J'ai un master en droit des affaires, et j'ai exercé et en cabinet d'avocat, en tant que juriste, et en entreprise, comme juriste d'entreprise. Donc j'ai eu cette vision entreprise, entrepreneuriale, et j'ai eu cette vision du dirigeant qui fait appel au cabinet pour venir défendre ses intérêts et sortir d'une situation. Et le droit est extrêmement important dans nos métiers, parce qu'il y a la première chose, c'est le cadre légal de l'exercice de nos fonctions. Quand on sert un État, on sert une puissance, et donc le cadre légal est différent. Et quand on sort d'un cadre légal qui est celui de l'État, il est important de se resituer correctement, parce qu'on ne sert pas des intérêts de la nation avec des moyens étatiques, on sert des intérêts privés avec des moyens légaux. Et donc, maîtriser le cadre légal, c'est déjà se protéger soi, sa structure, agir correctement, et donc protéger ceux qui font appel à vous. Puisqu'on va venir utiliser le droit au service du dirigeant et le protéger en ne faisant pas n'importe quoi. Et le deuxième point qui est important d'avoir fait du droit, je pense, c'est que le renseignement économique, on l'a dans un chapitre de l'ouvrage, est utile en cas de contentieux d'affaires. Donc, dans un cadre juridique, à la charge de la preuve, le renseignement permet de venir contrebalancer un dossier ou trouver des leviers de négociation pour éviter ce contentieux quand on va en médiation. Donc, maîtriser le droit est un plus et je dirais même une nécessité pour ceux qui exercent dans le métier dont on parle.
Et l'éthique dont vous parliez tout à l'heure, c'est le droit qui vous a inspiré l'éthique ou c'est votre culture, votre formation personnelle, c'est quoi ?
C'est l'armée.
Parce que vous disiez que c'est très important, et je partage votre point de vue. Hein. Et ce n'est pas si fréquent que ça, il faut être honnête. Hein.
Non, c'est des valeurs, mais l'armée, et puis mon éducation.
Mon éducation
familiale, je viens d'une famille vietnamienne, franco-vietnamienne. Les mamans vietnamiennes, qui est ma maman est vietnamienne, on a cette rigueur et cette droiture, et je pense que je l'ai dès mon éducation. Et puis, avec le parcours que j'ai eu, dans le droit, on choisit son camp, mais il y a une éthique, hein, le droit, on est la rigueur du droit. Et puis, à l'armée, et encore plus dans les services spéciaux, il y a cette rigueur, puisqu'ils nous font confiance pour faire des choses. On se doit d'avoir cette droiture. Donc, je l'applique aujourd'hui. Elle fait partie de moi. Donc, je ne me rends pas compte, mais...
Oui, mais c'est vous, ça fait partie de
moi.
Je pense que pour nos auditeurs... ça complète beaucoup les émissions qu'on a faites sur l'intelligence économique, parce que là, on a fait un coup de projecteur totalement différent des autres, mais ça complète tout ce qu'on a pu dire avant. Et je crois que j'espère que, d'une part pour vous, j'espère que ce livre aura beaucoup de succès et que votre entreprise aura beaucoup de succès, mais je pense que, de toute manière, dans le cadre du développement en France et qu'il faut souhaiter de les pratiques du renseignement d'affaires, de l'intelligence économique, de toutes ces techniques qui nous permettent d'être plus performants, il faut souhaiter que ça va se développer parce qu'on en a vraiment besoin, car nous sommes dans un pays en difficulté et il faut en sortir. Merci, vous y contribuez.
Merci de m'avoir reçu, merci pour ces mots.
Voilà, nous avons mis en lumière un métier de l'ombre. Et donc, ça vous intéresse, si vous êtes passionné, n'hésitez pas, vous pouvez appeler Madame Camus ou même... nous appeler, on vous orientera. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine émission tous les vendredis à 17h sur YouTube. Merci, au revoir.